Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes le 2 novembre et cette journée, vous le savez, a une résonance toute particulière ici à RFI, Radio France Internationale, car il y a tout juste 2 ans, nos deux collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à Kidal, dans le nord-est du Mali, alors qu'ils préparaient une série de reportages. Ghislaine et Claude étaient tous les deux de grands professionnels, des passionnés du terrain. Ils étaient passionnés également par le continent africain. Et dans les semaines qui ont suivi, l'ONU a décidé d'adopter à l'unanimité une résolution décrétant le 2 novembre Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, une résolution qui appelle à aller jusqu'au bout des enquêtes. Le problème, c'est que selon Reporters sans frontières, plus de 90% des crimes commis contre les journalistes à travers le monde ne sont jamais élucidés. Un chiffre, depuis l'assassinat de nos deux collègues, 134 journalistes ont été tués. Alors dites-nous, quelles sont les conditions de travail des journalistes dans votre pays? Avez-vous le sentiment que leur sécurité est garantie? Que pensez-vous de la liberté de la presse? Là où vous nous écoutez en ce moment, vous nous rejoignez évidemment au standard 33 9 693 693 1370, les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité que nous traitons dans nos différents journaux. Pour commencer, nous accueillons Diallo, qui nous appelle de Guinée. Bonjour Diallo.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions concernant une saisie record de drogue au Liban, c'était la semaine dernière.
Oui, bonjour, chers collègues. Avant de poser ma question, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à RFI à travers Ghislaine et Claude. Et j'ai effectivement des questions à propos d'une affaire.
Oui.
La semaine dernière, un prince saoudien a été arrêté à l'aéroport de Beyrouth, au Liban, avec une très grosse quantité de drogue. Alors, Juan, j'ai 2 questions. La première, qui est ce prince saoudien? La deuxième,
alors, le réseau téléphone n'était pas très bon, Diallo. En tout cas, on a compris l'essentiel. C'est vrai que un membre de la famille royale d'Arabie Saoudite arrêté pour trafic de drogue à l'aéroport de Beyrouth. L'affaire fait sensation. Bonjour Olivier Dallage.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et notamment de l'Arabie Saoudite à RFI. On vous doit plusieurs ouvrages et notamment Géopolitique de l'Arabie Saoudite. C'est publié aux éditions Complexe. Je le disais tout à l'heure et Diallo le rappelait, il s'agit de la plus importante saisie de drogue jamais réalisée à l'aéroport de Beyrouth. Qui est ce prince saoudien qui met dans l'embarras son royaume?
Ce n'est pas un prince très connu, très important. C'est l'un des très nombreux petits-fils d'Abdelaziz, le fondateur du royaume, celui qu'on appelle Ibn Saoud. C'est quand même pas rien. Mmh. Et il a été arrêté avec les gens qui l'accompagnaient.
Avec 4 personnes avec lui. Hein.
Avec 2 tonnes de captagon, qui est une amphétamine excitante. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, le trafic de drogue est puni de mort, et que chaque année, des Syriens, des Pakistanais, des Nigériens et autres sont décapités parce qu'ils transportent de la drogue, et notamment du captagon. Lui, il y a très peu de chances que ça lui arrive, puisque les princes qui mettent le royaume, comme vous dites, dans une situation plus qu'embarrassante, on les prive de passeport, on les punit sans doute en interne, mais en tout cas, ils n'éprouvent pas la rigueur de la justice saoudienne.
Alors le captagon, c'est une drogue, dit-on, très populaire dans certains pays du Golfe, et notamment en Arabie Saoudite. Elle est présentée, alors je ne sais pas si vous avez cet élément d'information, Olivier Dallage, elle est présentée comme la drogue des djihadistes.
Mais c'est un excitant, donc ça permet d'atténuer la douleur, d'effacer la sensation de sommeil. Donc on peut imaginer que pour des combattants, comme les enfants soldats, comme les djihadistes, etc., ça leur permet de faire des choses qu'ils ne feraient peut-être pas s'ils n'étaient pas drogués.
Alors ce prince a été pris la main dans le sac à l'aéroport de Beyrouth. La drogue était destinée vers quel pays? Vers l'Arabie Saoudite?
Oui, il y a en Arabie Saoudite des parties, certains diraient des orgies, où ce genre de choses, drogue, alcool, femmes, enfin toutes sortes de choses qui sont très sévèrement contrôlées, réprimées en Arabie Saoudite, deviennent possibles dans le cadre de résidences privées, de palais et sous la protection de princes importants.
Voilà, Diallo, ce qu'on pouvait vous dire à cette heure-ci concernant donc cette saisie record. 2 millions de tonnes de pilules blanches, des petites pilules blanches appelées donc Captagon, drogue à base d'amphétamine. Merci Olivier Dallage d'être venu dans ce studio. 33 9 693 693 70. On va revenir sur l'affaire Air Cocaïne. Bonjour Tchapi.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons.
Oui. J'ai quelques questions. Dans l'affaire Air Cocaïne, deux pilotes français condamnés par la justice dominicaine se sont évadés et se retrouvent sur le territoire français. Mmh. J'ai trois questions à poser à la rédaction. Comment se déroule leur évasion et qui les a aidés?
Alors on va déjà répondre. Alors on va déjà répondre à ces premières questions. Effectivement, on va savoir si une semaine après leur retour en France, on en sait un peu plus sur cette incroyable fuite des deux pilotes français. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Tchapi.
Merci d'être avec nous. Fuite rocambolesque hein, des deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de drogue. Que sait-on alors qu'il est sur les conditions de leur évasion?
Eh bien, en fait, c'est au fur et à mesure hein, que les informations nous parviennent. Les deux pilotes, eux, qui ont été les premiers à parler, n'ont pas fait de déclaration sur cette évasion. À chaque fois qu'ils ont pris la parole, en de rares occasions néanmoins, ils ont refusé de répondre à ces questions, disant qu'ils ne voulaient pas mettre dans une position délicate les personnes qui leur sont venues en aide. En fait, ce qu'on sait de cette histoire, Juan, ce sont finalement deux autres personnes qui l'ont raconté, deux personnes qui affirment avoir été à l'origine de cette évasion. Émeric Choprade, tout d'abord, député européen, membre du Front National, c'est lui qui aurait eu l'idée de faire sortir les deux pilotes de la République dominicaine. En fait, il dit qu'il avait compris, après leur condamnation en première instance, que les deux pilotes ne seraient pas acquittés par un procès en appel. Et par l'intermédiaire d'autres personnes du comité de soutien dont il faisait partie, il serait entré en contact avec Christophe Naudin, criminologue et spécialiste de la sûreté aérienne. Alors, Émeric Choprade a ainsi raconté qu'ils avaient mis en place cette opération en prétendant organiser un grand dîner à Saint-Domingue. Ils parlaient entre eux en langage codé et leur code tournait donc autour de la gastronomie. Christophe Naudin, lui, a précisé que quatre scénarii avaient été mis en place pour, dit-il, brouiller les pistes, et que c'est à la dernière minute seulement qu'il a opté pour ce scénario de transbordement par mer. Un premier bateau, donc, est en fait venu chercher les deux pilotes sur une plage dominicaine, un bateau léger, qui les a emmenés dans les eaux internationales, où là, ils sont montés à bord d'un autre bateau, un gros voilier qui les attendait. Christophe Naudin se trouvait d'ailleurs dessus. Ils ont ainsi regagné Saint-Martin, qui est une île franco-néerlandaise des Antilles. De là, ils ont pris un premier vol pour la Martinique, une île, elle, entièrement française, toujours aux Antilles, puis ensuite un vol pour Paris. Alors, en tout, une dizaine de personnes auraient été impliquées dans cette évasion. C'est là encore, en tout cas, ce que dit Christophe Naudin. Selon lui, il s'agissait d'anciens marins, de militaires de l'aéronautique, mais pas d'agents des services secrets à sa connaissance.
On dit que l'opération aurait coûté en tout 100 000 euros.
Oui, alors c'est effectivement la somme évoquée par Christophe Naudin, toujours, une somme qu'il dit avoir récoltée auprès de donateurs. Enfin, reste la question des papiers d'identité, effectivement, hein, puisque les deux pilotes n'avaient pas le droit de quitter la République dominicaine, Juan. Leur passeport avait donc été confisqué, mais Christophe Naudin dit qu'ils n'ont a priori pas utilisé de faux papiers. À partir du moment où ils mettaient le pied dans l'espace Schengen, une carte d'identité aurait pu suffire, mais peut-être que tout est dans le a priori, évoqué par Christophe Naudin.
Et rappelons que la France, l'État français assure n'avoir joué aucun rôle dans la fuite de ces deux pilotes. Tchapi, vous avez d'autres questions?
Oui, la deuxième question. Pourront-ils être préjugés par la justice française ou seront-ils renvoyés en République dominicaine?
Ah, quel avenir judiciaire pour Pascal Forêt et Bruno Odos?
Eh bien, alors c'est vrai que la France a une convention d'extradition avec la République dominicaine, mais le porte-parole du gouvernement français a été très clair hein, sur ce sujet. La France n'extrade pas ses ressortissants. Un simple respect de la loi, assure Stéphane Le Foll. En fait, la France n'extrade pas ses ressortissants hors de l'Union européenne. Le procureur général de la République dominicaine a lui jugé que cette évasion est une preuve supplémentaire de leur culpabilité et il a donc annoncé qu'il allait émettre un mandat d'arrêt international. Alors, comme les deux pilotes ne seront pas extradés de France, ils ne risquent pas grand-chose dans un premier temps, mais ils seront limités dans leurs déplacements internationaux, car s'ils mettent le pied dans un pays qui a une convention d'extradition avec la République dominicaine, eh bien, ils pourraient être renvoyés vers Saint-Domingue. Alors, quant à un procès en France, c'est effectivement une possibilité. La justice française a même déjà lancé une enquête qui n'est pas récente d'ailleurs, puisqu'elle a été ouverte un mois avant l'arrestation des deux pilotes à Punta Cana en 2013. Une magistrate de Marseille s'intéresse à une dizaine de vols transatlantiques suspects et 10 personnes sont mises en examen dans ce dossier. 10 personnes dont les deux pilotes. Et d'ailleurs, ce matin, les deux pilotes ont été conduits par des gendarmes dans le bureau de cette juge.
Affaire à suivre. Vous avez une dernière question, Tchapi.
Oui, la toute dernière. Qu'adviendra-t-il des deux autres Français restant en revue dominicaine?
Ah, bonne question. Guilhem Deltaï, c'est vrai que deux autres Français également condamnés à 20 ans de prison en première instance pour trafic de drogue sont toujours en République dominicaine. Que sait-on de ces deux hommes?
Eh ben, ils ont été arrêtés effectivement en même temps que les deux pilotes. Ils se trouvaient à bord de cet avion. Et alors de savoir ce qui va advenir d'eux maintenant, c'est une question qui inquiète beaucoup leurs proches. On a entendu plusieurs d'entre eux prendre la parole pour s'inquiéter d'un éventuel, d'une part, durcissement des conditions carcérales là-bas. Alors ils sont comme les deux pilotes actuellement en liberté surveillée avec interdiction de quitter le territoire, mais ils circulent librement sur l'archipel. Certains redoutent donc qu'ils retournent en prison, ce qui avait été le cas pendant 15 mois avant leur procès. Et puis il y a des inquiétudes aussi sur l'état de santé de l'un d'entre eux, Alain Castani. Il a été renversé il y a quelques jours par une moto à Saint-Domingue. Il a depuis subi 3 opérations, mais risque d'être amputé de la jambe gauche. Son avocate dominicaine a annoncé qu'elle fera une demande de rapatriement sanitaire, conformément, dit-elle, aux recommandations de son médecin. Alain Castani, pardon, qui avait pris la parole d'ailleurs après cette évasion et qui avait parlé d'un acte irresponsable et déloyal de la part des deux pilotes.
Effectivement, merci. Merci Guilhem Deltaï d'avoir été avec nous. Vous prenez l'émission en cours, vous souhaitez peut-être réécouter les réponses de nos experts. Eh bien, sachez que désormais, nous vous proposons une session de rattrapage. C'est quand vous voulez, autant de fois que vous le voulez, sur la page Facebook de l'émission ou sur la chaîne YouTube de RFI, sur la playlist Les experts d'appel sur l'actualité. Il est 9h22 ici à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. Josario, bonjour.
Oui, bonjour Juan, puis bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Kinshasa. Vous avez-vous des questions sur la réforme constitutionnelle au Rwanda?
Oui, nous avons une nouvelle disant que M. Kagame voulait changer de constitution pour lui permettre de gagner un troisième mandat. Et pour cela, je voulais poser des questions pour savoir, est-ce que M. Kagame va-t-il organiser un référendum pour changer la constitution de son pays? Et puis, pourquoi il y a seulement un seul parti politique qui s'oppose à ce changement de la Constitution?
Ouais, bonne question, effectivement. Je rappelle que jeudi, les députés rwandais ont approuvé à la quasi-unanimité le projet de réforme constitutionnelle qui devrait permettre à Paul Kagame de briguer un troisième mandat de 7 ans en 2017, puis un quatrième et un cinquième mandat de 5 ans cette fois-ci. C'est-à-dire que potentiellement, Paul Kagame peut rester au pouvoir jusqu'en 2034. Bonjour Stéphanie Aglietti.
Bonjour Juan, bonjour Josario.
Merci d'être avec nous, vous êtes la correspondante d'RFI au Rwanda. Faut d'abord préciser à Josario et à tous ceux qui nous écoutent, officiellement ce n'est pas le président Paul Kagame qui veut changer la constitution. Cette initiative, elle émane du peuple rwandais.
Oui, en effet, alors officiellement, donc c'est pas le président qui est à l'origine de la réforme. Alors pour l'instant, Paul Kagame ne s'est pas prononcé sur ses intentions, répétant qu'il ne briguerait un nouveau mandat que s'il était plébiscité par son peuple. Mais selon de nombreux observateurs, son parti, le FPR, dont il est le président, est en réalité à la manœuvre pour sa réélection et la population instrumentalisée pour justifier cette réforme de la Constitution. Pour rappel, le Parlement avait donné son feu vert à la réforme après avoir affirmé avoir reçu des millions de pétitions de Rwandais en faveur d'un maintien au pouvoir de Paul Kagame. Les parlementaires avaient également assuré n'avoir recensé qu'une dizaine de Rwandais dans le pays opposés à une telle réforme.
Alors, 3 700 000 personnes, hein, pour être précis, c'est ce qu'affirme le Parlement. Tous ces Rwandais ont signé une pétition demandant une réforme de la Constitution. Alors, la deuxième question de Josario est intéressante, puisqu'il nous dit comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul parti à s'opposer clairement à cette réforme. Et effectivement, ce parti, c'est le seul parti qui s'appelle le Parti démocratique vert, un tout petit parti politique.
Oui, alors le Rwanda est régulièrement épinglé pour son manque d'ouverture politique. Alors les partis représentés au Parlement sont le FPR et ses alliés, parfois qualifiés de partis satellites. Et effectivement, le Parti démocratique vert est le seul parti légalement enregistré à s'opposer à une telle réforme. À noter que dans le pays, il y a d'autres partis qui sont contre un troisième mandat pour Paul Kagame, mais ces partis ne sont pas reconnus par le gouvernement et ne peuvent donc pas opérer. Il s'agit du parti de Victor Ingabire, l'opposant condamné en 2013 à 15 ans de prison, notamment pour minimisation du génocide, et celui de Bernard Taganda, un autre critique qui vient de purger une peine de 4 ans de prison, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors après, il y a d'autres membres de l'opposition, mais qui sont en exil à l'étranger, qui critiquent ce changement constitutionnel.
On aura.
Voilà, donc reste qu'il y aura bien un référendum pour répondre à la question de Jotario. Il y aura bien un référendum comme le veut la Constitution après le vote du Sénat.
Affaire à suivre donc, et on aura certainement l'occasion d'en parler avec les auditeurs. Merci Stéphanie Aglietti, correspondante des RFI au Rwanda. Jossario, bonne journée à Kinshasa. Il nous reste 5 minutes, le temps d'accueillir Davy. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans le monde.
Et ils sont nombreux, merci à tous de votre fidélité. Vous avez des questions concernant Donald Trump?
Oui, j'ai deux questions concernant Donald Trump. Donald Trump qui est candidat à la candidature républicaine aux États-Unis. Comme selon son politique, il dit qu'il a regretté la stabilité en Irak quand il était Saddam Hussein et la stabilité en Libye au camp de Kadhafi. Alors, ma première question est ceci. Comment il peut accueillir ses propos dans le camp des républicains, étant donné que c'est Bush, George Bush qui était présent à cette époque là donné?
Ah, le réseau téléphone n'est pas très bon, mais on a compris que vous souhaitiez qu'on le revienne sur les récents propos de Donald Trump concernant Saddam Hussein et Muammar Kadhafi. Le monde se porterait nettement mieux si Saddam Hussein et Muammar Kadhafi étaient toujours au pouvoir. C'est ce qu'il a déclaré, c'est en tout cas son analyse à lui. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour Juan.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On vous doit, parmi vos nombreux ouvrages, Les États-Unis pour les nuls. Comment le camp républicain, l'élite républicaine a-t-elle réagi à ces propos de Donald Trump?
Alors d'abord, il tape pas que sur George Bush en fait, hein, parce que la Libye, c'est du temps de Barack Obama. Donc il tape en fait sur deux adversaires qui sont Hillary Clinton, secrétaire d'État à ce moment-là, et Bush et George et Jeb à travers lui, hein, évidemment. Alors c'est plutôt mal accueilli parce que d'un côté, il y a de la réelle politique, on comprend le discours de Trump qui dit il y a plus de danger aujourd'hui, etc. Mais en même temps, effectivement, comme l'a rappelé votre auditeur, la décision d'envahir l'Irak et de renverser Saddam Hussein, elle a été prise par l'immense majorité du Congrès et par la totalité des républicains. Cela étant, on peut entendre dans le camp républicain un tel discours, dans la mesure où beaucoup de républicains considèrent aujourd'hui que le travail a été fait par les républicains, par l'armée, mais que c'est la politique derrière qui n'a pas fait bien le boulot, qui n'a pas bien fait le service après-vente. Et d'une certaine manière, ce n'est pas forcément ultra mal perçu par le parti républicain comme une trahison, parce que d'une certaine manière, c'est surtout les politiques qui sont mis en cause, même si effectivement sur l'Irak, quand même là, c'est quand même difficile à entendre dans la mesure où on se souvient que Saddam Hussein était présenté comme un nouvel Hitler, que son armée était capable de détruire les États-Unis. Donc on a du mal à accepter effectivement tout de même de tels propos qui sont, comme toujours chez Donald Trump, marqués par le sceau de la provocation.
Effectivement. Et ces propos lui permettent de remporter de nouvelles voix parmi les militants républicains ou pas?
Ben ça peut parce que il constate, il arrive après. Son grand avantage à lui, c'est qu'il a jamais été aux affaires, c'est qu'il a jamais été élu, c'est qu'il a jamais été au Congrès, jamais évidemment à la Maison Blanche, et donc il arrive un peu après tout le monde et il dit regardez, c'est la catastrophe, on aurait dû, on n'aurait pas dû, etc. Donc ça, c'est un discours qu'on peut entendre aux États-Unis parce que il y a un discours extrêmement décliniste en ce moment à Washington, un discours alarmiste même sur la puissance de l'État islamique, sur l'état de déliquescence de l'Irak et de la Libye. On dit que la Libye demain, ça sera pire encore, Donald Trump n'arrête pas de dire que l'Irak, c'est le Harvard du terrorisme, hein, c'est là où on forme les meilleurs terroristes du monde. Donc c'est un discours, lui, arrivant après, il n'a pas assumé les échecs précédents, et c'est un discours qu'on peut entendre, notamment parce qu'en plus, après avoir dit ça, il précise que son discours à lui, c'est la force, la force, la force. Et la force, ça veut dire être dur avec l'État islamique et que personne n'imagine un jour attaquer les États-Unis. Donc c'est un discours viril, un discours de force. On a l'impression d'entendre un Ronald Reagan. Et d'une certaine manière, c'est un discours que les Américains ont envie d'entendre aujourd'hui, oui, après des années de dialogue et de discussion, de réflexion avec Barack Obama.
Un discours qui séduit puisqu'il est encore en tête des sondages de la primaire républicaine pour la présidentielle de l'année prochaine. Merci beaucoup Thomas Negaroff d'avoir été avec nous. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, surtout n'hésitez pas, vous nous appelez, le standard reste ouvert 33 9 693 693 70. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes. Nous parlerons ensemble de la protection des journalistes à travers le monde.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.